Les matins débutent avec le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un millier d'emplois supprimés par General Electric en France. Le géant américain avait pourtant promis 1000 embauches dans le secteur lors de la reprise d'Alstom en 2015. Un revirement qui attise la colère des salariés.
Pas de grande avancée hier au Conseil européen exceptionnel. Les chefs d'État et de gouvernement des 28 vont avoir du mal à s'accorder sur le nom du futur président de la Commission européenne.
Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, en passe de finaliser un accord de paix entre Israël et la Palestine. Le président américain souhaite un accord définitif, mais les deux parties ne semblent pas réceptives. Et la journaliste du Monde, Ariane Chemin, convoquée aujourd'hui par la DGSI, la 8e journaliste à l'être en moins de 3 mois. Et dans 10 minutes, Guillaume, la question du jour.
Renault, Fiat, Chrysler, pourquoi cette fusion? Est-ce une si bonne affaire que cela pour Renault? On posera la question à Bernard Julien. Il est maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux.
La stupéfaction et la colère ce matin pour les salariés du groupe General Electric. L'annonce redoutée est finalement tombée hier. Le géant américain va supprimer 1044 emplois en France dans sa filière gaz et ses services administratifs. Pour ces derniers postes, cela concernera le site francilien de Boulogne-Billancourt. Pour les emplois industriels, ce sont ceux de Belfort et de Bourogne qui seront touchés. Une annonce qui va à l'encontre des promesses de General Electric qui tablait sur 1000 embauches en 2015 au moment de la reprise d'Alstom. Pour les salariés de Belfort, Raphaël Ebenstein, c'est une nouvelle étape difficile qui se dresse devant eux.
Des visages fermés et peu de volontaires parmi les salariés de General Electric pour témoigner. L'un d'eux, Gérard, semble encore abasourdi.
Je crois qu'il faut le temps un petit peu là, parce qu'on a pris ça, comme dit, on avait beau s'y attendre plus ou moins, mais bon, maintenant on l'a pris sur la tête. Voilà. Sur le coup, ça fait mal, maintenant il faut attendre un petit peu, faut laisser décanter et puis voir comment on va réagir par la suite.
Ce qui choque surtout, c'est l'ampleur de la restructuration envisagée, jusqu'à 1044 postes supprimés au total, même si certains, comme Patrick, ne se faisaient aucune illusion sur la stratégie de General Electric.
On sait que General Electric, Monde, ils sont en difficulté, donc la priorité, c'était de rapatrier du cash aux États-Unis et c'est ce qui est en train de se faire.
La suite, Nicolas Mercier, délégué CFE-CGC, l'imagine quand même tendue une fois que l'annonce d'hier va vraiment se concrétiser.
Ça va être également notre rôle, dans les jours et les semaines à venir, de vraiment canaliser les gens et leur détresse de manière à garder autant que possible la situation sous contrôle. Il se pourrait que ça soit compliqué.
Et l'intersyndicale a d'ailleurs prévu de se réunir dès aujourd'hui pour envisager d'éventuelles actions, sans doute au mois de juin.
Raphaël Ebenstein. Et au même moment, hier soir, le repreneur, lui de l'usine Whirlpool, Damien WN, a été placé sous la protection du tribunal de commerce à cause d'une impasse de trésorerie très importante. Là, ce sont 162 salariés qui sont menacés. Deux annonces qui tombent 2 jours après le résultat des élections européennes et qui constituent une nouvelle épine dans le pied d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui a affirmé que l'État serait vigilant à ce que les engagements de General Electric soient tenus. Déclaration en marge du Conseil européen exceptionnel qui s'est tenu à Bruxelles après les élections européennes. L'occasion d'un premier round de négociations pour s'accorder sur un nom pour le futur président de la Commission européenne. Problème, aucun des groupes nouvellement élus n'a la majorité pour décider seul. Il faudra s'allier, discuter, négocier. Emmanuel Macron s'attend à jouer un rôle central.
Mon souhait, et ce que je considère comme étant mon rôle aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai fait en France, c'est de rassembler et de sortir des logiques trop claniques. Rassembler, ça veut dire tout faire pour qu'au Parlement, comme autour de la table, on ait une coalition la plus large possible des pro-européens. Mon souhait est que les familles politiques, la nouvelle famille centrale à laquelle la liste Renaissance appartiendra, puissent travailler avec les sociaux-démocrates, avec les Verts, avec le PPE, pour justement bâtir une plateforme nouvelle et qu'autour de la table du Conseil, tous les pro-européens puissent travailler ensemble. Je veux de la cohérence, je veux de la compétence.
Le chef de l'État dont le parti La République En Marche a échoué à remporter ces élections européennes. Et quand on regarde les mouvements d'électeurs entre deux élections, on peut associer une explication à cette défaite. La majorité a récupéré bon nombre de voix venues de la droite, mais a dans le même temps connu une grosse fuite sur sa gauche. Signe pour l'aile gauche du parti qu'il faut désormais rééquilibrer la balance au sein de La République En Marche, Rosalie Lafarge.
La majorité récupère un quart des électeurs de François Fillon pour ces européennes. Mais dans le même temps, selon l'IFOP, près de 30% des soutiens d'Emmanuel Macron à la présidentielle ont voté à gauche, surtout pour les Verts de Yannick Jadot. Et ce n'est pas une surprise pour la marcheuse Sonia Crimi.
Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'un autre mouvement n'a pas réussi à s'inscrire dans un projet écologique.
parfois on n'est pas très clair en fait, on va faire un tout petit peu. Non, il y a des gens qui ont compris que l'écologie n'attend pas.
Il va falloir envoyer de vrais signaux en ce sens, abondent plusieurs députés de la majorité. Même le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, appelle cette sensibilité de gauche à se faire entendre. On va devoir faire davantage, reconnaît l'ancien socialiste devenu marcheur Sacha Houlier. Mais l'idée pour lui, c'est aussi
d'assumer ce que nous faisons de correct sur la question des précaires. La taxation des contrats courts avec le bonus-malus qui va être instauré très prochainement. La question de l'accompagnement social avec le revenu universel d'activité qui doit prévoir un versement social. Et sur toutes ces questions-là, nous avons des outils à nous de convaincre les personnes qui ne les ont pas estimées suffisantes qu'il y a des engagements concrets de notre part.
D'autres voudraient plus de contrôle de la part de l'aile gauche, plus de veille, un peu comme ce que fait agir le parti de centre-droit avec la majorité. Olivier Véran, ex-PS, lui aussi en marche.
Beaucoup d'électeurs de gauche qui disent en fait il manque une forme d'agir de gauche, c'est-à-dire qu'il manque une cellule de veille qui soit à l'extérieur d'En Marche et qui soit capable de porter ses idées. Je pense plus que c'est vers ces personnes-là, à l'extérieur du mouvement, qu'il faut être capable de parler.
Depuis plusieurs mois déjà, des responsables de cette aile gauche de l'REM réfléchissent à un équivalent d'agir, un sas pour des élus de gauche décidés à se rapprocher de la majorité. Aux manettes de la réflexion pour l'instant, les ministres Didier Guillaume, Olivier Dussopt ou Jean-Yves Le Drian.
Rosalie Lafarge, on reparlera de ces mouvements de voix avec votre invité Guillaume Erner entre 7h40 et 8h. C'est le député européen Yannick Jadot. Une élection européenne qui n'a pas non plus conforté la coalition au pouvoir en Allemagne, que ce soit chez les sociaux-démocrates ou bien les conservateurs de la CDU. La CDU qui réalise d'ailleurs son pire score de son histoire. L'occasion pour la chancelière Angela Merkel de reprendre la main. Dans une interview à CNN, elle confirme sa volonté d'aller au bout de son mandat en 2021. Voilà qui bouche encore un peu plus l'horizon politique de celle qui pourrait lui succéder, Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK. Elle s'est même retrouvée prise à partie par un célèbre youtubeur allemand, Rezo, accusé de ne pas en faire assez pour le climat et la jeunesse. La réponse d'AKK n'a pas en tout cas eu l'effet escompté, Ludovic Piétenu.
Parmi les électeurs âgés de moins de 30 ans et ceux qui votaient pour la première fois, seul 1 sur 10 a choisi le parti conservateur. Certains à la CDU y ont vu l'effet de cette vidéo. Postée il y a 10 jours, vue plus de 7 millions de fois avant le scrutin, plus de 13 millions ce matin, Rezo, un influenceur sur YouTube, musicien de 26 ans, s'en prend au parti chrétien-démocrate. « Je vais vous montrer, dit-il, comment la CDU vous ment, et en particulier à la jeune génération. » Il dépeint un parti déconnecté des enjeux qui intéressent les Allemands de son âge et conclut « Vous ne vous êtes pas fait des amis. » 70 autres YouTubeurs vont à leur tour réaliser un clip de soutien. Indirectement, c'est un réquisitoire contre Angela Merkel au pouvoir depuis 2005, mais la chancelière se garde bien de répondre. Cela fait 6 mois qu'elle a passé la main à la tête de la CDU à Annegret Kramp-Karrenbauer qui pose publiquement la question. Que se serait-il passé dans ce pays si 70 rédactions avaient lancé 2 jours avant les élections un appel à ne pas voter pour la CDU et le SPD? La réglementation de l'ère analogique ne doit-elle pas s'appliquer à l'ère numérique, oui ou non? Les critiques sont venues de toutes parts hier, y compris au sein de son propre parti. Il est absurde, a-t-elle écrit dans un tweet, d'insinuer que je veux réguler la liberté d'expression, mais on doit bien parler des règles qui s'appliqueraient pendant une campagne électorale. Ce n'est pas avec de telles déclarations que la CDU va regagner le vote des plus jeunes, et ce clivage générationnel n'est pas le seul défi que doit relever la nouvelle patronne des conservateurs allemands. Il y a son propre tempo et sa manière d'agir, elle qui a multiplié ces derniers mois les faux pas, une attitude qui tranche avec celle de la prudente et tacticienne chancelière.
Le reportage de Ludovic Piétenu.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Maxime Fayolle dans les matins. Le plan de paix entre Israël et la Palestine, entamé par le gendre de Donald Trump, entre désormais dans sa phase économique.
Jared Kushner entame une tournée au Proche-Orient aujourd'hui. Il est en Jordanie ce mercredi, en Israël demain, après une étape au Maroc hier. Donald Trump l'a chargé de trouver un accord définitif entre Israël et la Palestine. Une volonté bien loin des actes mis en œuvre par le président américain depuis son entrée en fonction. Le plan serait toutefois en cours de finalisation, Grégory Phillips, même si son contenu reste encore secret.
Rien n'a filtré de ce plan de paix. On sait simplement que c'est un document d'une 50aine de pages sur lequel le gendre du président travaille depuis 2 ans. On ignore, par exemple, s'il prône une solution à 2 États. Le plan pourrait être dévoilé dans les prochaines semaines, en tout cas après le Ramadan, qui se termine le 4 juin cette année. La Maison-Blanche a aussi prévu une conférence économique au Bahreïn à la fin du mois prochain. L'idée de Kushner, c'est d'inciter les pays de la région à investir massivement, à déverser des millions de dollars dans les territoires palestiniens. palestiniens. Mais pour l'heure, l'autorité palestinienne a fait savoir qu'elle ne participerait pas à ce rendez-vous, censé présenter le volet économique du plan américain. Il faut dire que depuis des mois, l'administration Trump donne énormément de gages aux Israéliens et aucun aux Palestiniens. Le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem ou encore la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Dans cette mini-tournée, Jared Kushner n'a d'ailleurs pas prévu de rencontrer les dirigeants palestiniens.
Grégory Phillips. En France, c'est aujourd'hui que la journaliste du Monde, Ariane Chemin, est convoquée devant la DGSI. On lui reproche le contenu de certains de ses articles sur l'affaire Benalla. En 3 mois, ce ne sont pas moins de 8 journalistes qui ont été convoqués par la sécurité intérieure. De quoi inquiéter la profession, Antoine Maret.
L'exécutif est-il en train de tenter d'intimider les journalistes? 8 convocations à la DGSI en l'espace de quelques mois, c'est beaucoup. Les 7 premières concernent une enquête du site Disclose de Radio France et de l'émission Quotidien sur l'utilisation des armes françaises au Yémen. Il est reproché aux journalistes d'avoir compromis le secret défense. En ce qui concerne Ariane Chemin, ce n'est pas l'État qui a porté plainte, mais un sous-officier de l'armée de l'air, membre des forces spéciales, Chokri Wakrim, avait été cité par la journaliste car impliqué dans l'une des affaires Benalla. Or, depuis 2016, il est interdit de révéler l'identité d'une personne appartenant à ces unités des forces spéciales. Ariane Chemin va être entendue sous le statut de suspect en audition libre. Elle pourra donc être accompagnée d'un avocat et quitter l'audition à tout moment. Après cette audition, le procureur pourra soit classer l'affaire, soit assigner la journaliste à comparaître devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, elle risquerait jusqu'à 5000 euros d'amende et 5 ans de prison.
Antoine Maret, et nous recevrons tout à l'heure dans le journal de midi et demi le journaliste Geoffrey Livolsi, fondateur du média d'investigation Disclose, lui aussi convoqué à la DGSI pour ses articles sur l'utilisation des armes françaises dans la guerre au Yémen. La météo, c'est le retour du beau temps ce mercredi, sauf sur la pointe bretonne. Les températures ce matin de 5 à 10 degrés à l'intérieur des terres, on frôlera même les 20 en fin de matinée sur la Côte d'Azur.
Merci pour ces nouvelles, Maxime Fay. 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, on va parler du mariage Renault-Fiat.